Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation de cette table ronde du réseau Medici. Et grand merci à Sarah Descamps d'avoir parfaitement posé les termes du débat et dans la suite de qui je vais m'inscrire directement puisque ma problématique est celle d'un formateur. Moi, j'ai été formateur en bibliothèque universitaire, comme l'a dit Monsieur Épron tout à l'heure, donc auprès des étudiants. Et en tant que formateur, responsable d'un service de formation, on travaille essentiellement avec, vous n'êtes pas sans le savoir, des outils numériques, des collections, et ça implique des compétences numériques, etc. Si bien que la question de l'impact environnemental du numérique, pour moi, il est un peu naturel qu'elle vienne un jour ou l'autre. Et j'ai eu envie de m'y intéresser. Il y avait assez peu de formateurs il y a 3-4 ans sur ce sujet-là. Donc, j'ai un petit peu bricolé au départ pour me lancer là-dedans. Et c'est ce que je vais vous raconter. Un des autres points de départ de cette séance de formation que j'avais initiée, c'était de manière peut-être un peu anecdotique, ces remarques des collègues, de mes voisins de bureau sur le manque de stockage sur leur webmail ou sur leur document partagé. Et effectivement, on peut avoir besoin de plus de stockage et n'avoir pas les moyens suffisants, mais on peut aussi interroger nos pratiques. Et finalement, c'était un point d'entrée qui me semblait intéressant pour échanger avec les collègues, pour débattre de ce sujet-là. Ce qui fait que la première version de cette séance de formation, je l'ai axée sur deux points qui ont été signalés par Sarah. Auparavant, le premier point pour moi qui est absolument vital, essentiel dans une séance de formation sur la sobriété numérique, c'est la question des matérialités du numérique. Et c'est un point qu'il n'est jamais inutile, à mon avis, de déconstruire. On a toujours une vague idée du fait que le numérique a un impact. C'est bien, je trouve, de documenter autant que possible, de trouver des chiffres. Ils sont assez faciles à trouver. Ils ne sont pas toujours parfaitement exacts, mais ce sont des ordres de grandeur qui sont très parlants. Donc, documenter et donner à voir aussi. Donc, avec ce type de petit support de formation, Story Map, qui permet de faire des slides sur une carte, eh bien, ça me permettait d'aller voir sur place et d'essayer de trouver des photos, des lieux du numérique, des lieux d'extraction, par exemple. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une mine de cobalt à côté de chez soi, de lithium? Quel impact ça a? À quoi ça sert? Comment ça vient se retrouver dans mon smartphone? Et ce genre d'informations-là, c'est assez facile de le matérialiser, de le donner à voir, et c'est assez parlant. De même que la carte des câbles sous-marins de l'Internet contemporain qu'on trouve, qui est actualisée en temps réel et qu'on trouve sur Internet et qui vous documente très bien l'ensemble des sociétés à qui appartiennent ces différentes infrastructures très lourdes. Voilà. Donc ça, c'était le premier axe, les matérialités du numérique, et c'est quelque chose, à mon avis, assez indispensable. Je vois que j'ai oublié de mettre le nombre de pages de mon document, il n'y en a pas beaucoup, vous en faites pas. Le deuxième axe, c'est la partie plutôt sur laquelle j'avais commencé à travailler, la partie éco-gestes, bonne pratique. Parce que c'est un extrait de mon premier support de formation, qui était sous forme de carte mentale, et que j'avais intitulé « Limiter son empreinte environnementale numérique », donc il n'était pas encore question de sobriété, mais d'action, comment est-ce qu'on peut faire individuellement pour limiter. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne, je pense, assez bien en formation, pareil, qui est assez, assez productif en termes de collectif, de transmission, parce qu'on peut co-construire ensemble, on a tous des éco-gestes, des extensions navigateurs qu'on connaît. Et quand on fait ce partage d'informations, c'est toujours très fructueux. Et puis aussi parce qu'agir, c'est un côté rassurant. On peut se dire qu'on fait quelque chose et c'est effectivement sortir de cette impasse potentiellement angoissante des impacts du numérique auxquels, pour la plus grande partie, on ne peut pas grand-chose. Donc pédagogiquement, en tout cas, co-construire ce genre de moment, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce que vous connaissez, que je connais, ou que je ne connais pas, comment est-ce qu'on peut s'enrichir mutuellement. C'est toujours intéressant. Après, la limite que j'ai pu trouver, c'est au moment quand j'ai transposé cette séance en milieu étudiant, c'est notamment le fait de renvoyer à des pratiques individuelles, bien sûr. Parce que, effectivement, en fonction du public devant lequel on se trouve, poser la question de la responsabilité individuelle, c'est intéressant, mais ça a aussi ses limites. On peut appuyer sur ces, euh, sur ces boutons sensibles de l'éco-anxiété, de la dimension aussi dérisoire de nos actions individuelles dans un monde numérique qui est un peu fou. Si bien que, au fur et à mesure du temps, j'ai essayé d'enrichir cette séance en portant la question sur la question de la sobriété numérique, en gardant le contenu initial dont j'ai parlé, les matérialités, les éco-gestes, mais en essayant aussi d'introduire une critique un peu constructive de ces éco-gestes en tant qu'ils renvoient à une pure responsabilité individuelle et ils ne font pas suffisamment jour, à mon goût, aux dynamiques sociétales, collectives, économiques, voire industrielles, du problème des impacts du numérique. Donc comment on fait pour parler de sobriété dans un monde de l'Internet contemporain, du numérique, qui est marqué par les excès absolument inverses. On est vraiment dans l'ébriété complète, plutôt. Donc là, il faut peut-être aller chercher du côté des modèles économiques, justement, de voir comment est-ce que cet enjeu de la captation de l'attention, des modèles de données publicitaires, font qu'aujourd'hui, les individus que nous sommes sont agis par un tas de forces beaucoup plus extérieurs qui font que notre responsabilité individuelle, c'est très bien, mais c'est un peu limité. Et de manière un petit peu comme un clin d'œil, j'ai introduit cette notion de non-agir issue du taoïsme Wu Wei pour indiquer que agir c'était très bien, mais qu'il fallait d'abord et avant tout se poser la question de ce sur quoi on agissait. Le non-agir, ça peut être très bien aussi, hein. Vous avez parlé en introduction, quelqu'un a évoqué le publish or perish, donc la course à la publication. Je crois que c'est Yves Gingras qui parlait du « publish and perish ». Voilà, des fois, trop agir ne conduit à rien de vraiment constructif. Donc ça, c'est un des aspects que j'essaye d'aborder, de développer, qui est peut-être moins évident, moins premier degré dans une séance de formation, mais qui me semble indispensable d'aborder. Et puis l'autre aspect, qui est absolument complémentaire, c'est comment c'est la dimension collective. Puisqu'on a parlé d'un problème qui était sociétal, collectif, presque anthropologique. Comment est-ce qu'on, ce problème, on lui apporte une réponse collective? Donc, on peut contribuer par les petits gestes, mais on peut aussi contribuer à travers toutes sortes de collectifs. Là, j'en ai mis quelques-uns de plein de natures différentes. Tout ça, de l'association professionnelle à la mission interministérielle et en passant par les think tanks. Il y a plein d'échelles dans lesquelles on peut contribuer, à mon avis, très efficacement au débat et apporter sa part de manière aussi spécialisée dans des modèles de l'intérieur, on va dire, où se jouent les comportements numériques. Alors, quelques aléas, puisque ça semblait particulièrement vous intéresser. Les difficultés qu'on peut rencontrer en montant ce type de formation, je suis conservateur de bibliothèque, j'ai pas une expertise immédiate sur ces questions-là. Je l'ai construite un peu progressivement à travers trois types de sources. Les médias, tout d'abord, qui eux parlent essentiellement des éco-gestes. Quand ils abordent la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau, à ce fameux niveau individuel, cette question des vidéos haute définition, etc. Donc, qui est intéressante, mais à mon avis insuffisante. Ensuite, à un deuxième niveau, on a ce que j'ai nommé ici les entrepreneurs de cause, donc qui sont les acteurs associatifs, think tanks, qui ont pour objectif, eux, de peser dans le débat public et qui le font, à mon avis, de manière très, très efficace. Si on parle aujourd'hui de sobriété, de transition numérique, c'est, à mon avis, très largement grâce à eux. En même temps, leur objectif étant de peser dans le débat public, il y a encore un troisième niveau qui va peut-être être le plus intéressant et aussi le plus complexe à saisir, c'est le débat scientifique. Sur les impacts du numérique, le débat scientifique, il est en cours. Il y a des points qui font consensus, d'autres qui sont encore des points un peu aveugles. On a parlé de la dernière étape du cycle de vie, les déchets, qu'est-ce que deviennent le numérique. Là, on a un grand manque de données sur ces questions-là pour vraiment arriver à des consensus, des choses qu'on peut facilement mettre en valeur en formation. Un autre point aveugle, ça peut être, je pensais tout à l'heure, aux impacts positifs du numérique. dont tu as parlé aussi, ça va presque de soi parce que on nous répète aussi à l'envi que le numérique peut être faire partie de la solution. Seulement, pour l'instant, les études qui portent sur cette dimension positive sont très, très largement des études relevant des groupes industriels qui ont intérêt au numérique. Et pour l'instant, dans la recherche scientifique, en tout cas, il me semble que n'émerge pas du tout de consensus ou d'études réellement satisfaisantes sur le plan de l'évaluation des impacts positifs et négatifs. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à prendre en main. Donc la question des sources, pour cette raison-là, moi, en tant que conservateur de bibliothèque, je travaille essentiellement sur des collections, sur des sources, et elles sont encore mouvantes, elles sont encore inscrites dans des logiques qui sont assez différentes. Donc effectivement, construire quelque chose là-dessus, ce n'est pas forcément facile. Une autre difficulté, peut-être la plus grosse difficulté, c'est la dimension de transmissive, pédagogique sur un discours, une question qui est potentiellement un petit peu difficile. Il est bien évident que je parle de formation à la sobriété numérique, mais ce n'est peut-être pas très adapté. On peut difficilement faire un discours qui soit en tout cas purement descendant, qui soit prescriptif et technique sur ce sujet-là, pour plusieurs raisons, parce que ce sont des questions qui fâchent, qui peuvent être clivantes. Pour la question de l'éco-anxiété dont on a parlé tout à l'heure, qui renvoie à un vécu individuel, le numérique étant non pas un artefact qui est en dehors de nous, mais c'est quelque chose qui infuse tellement tous les aspects, toutes les dimensions de notre vie, qu'il renvoie à plein de choses vraiment individuelles, personnelles, qui sont pas faciles à prendre en main. Et ça peut être potentiellement vécu comme intrusif, la question de vos usages du numérique, et on le comprend. Et puis, on se trouve constamment dans ce type de formation, à la limite de l'injonction contradictoire, avec d'un côté, quand on parle de sobriété, et que de l'autre côté, eh bien, le monde entier semble se tourner vers des solutions technologiques, vers du progressisme, enfin du solutionnisme en tout cas. Comment est-ce qu'on aborde cette question? Typiquement, quand vous expliquez en formation, il y a une étude de Green IT qui a évoqué le fait que chaque foyer européen possédait en moyenne 15 terminaux numériques, entre guillemets, selon la définition du numérique, donc des tablettes, smartphones, portables, etc. Et que pour que rester dans des limites planétaires soutenables, il faudrait que chaque foyer européen possède un terminal. OK. Alors, en tant que formateur, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? C'est évidemment, on peut le dire, c'est bien, il faudrait moins de terminaux numériques. Et en même temps, on se heurte très vite au fait que c'est pas une injonction de formateur à apprenant, c'est vraiment autre chose, c'est un élément du débat, un élément de l'ordre d'idées qu'on peut donner. Notre exemple classique en bibliothèque, quand on évoque le fait que la connexion Internet est beaucoup moins énergivore quand on passe par le Wi-Fi que par la 3G, la 4G et la 5G. C'est super, mais quand on fait cette formation-là dans une BU dans laquelle le Wi-Fi est plus ou moins satisfaisant, forcément, on est soi-même devant des contradictions comme ça qui font que ce n'est pas forcément simple à développer. Il me semble qu'une des pistes, en tout cas, c'est de montrer le mieux que peut apporter la sobriété. La question des éco-gestes, je suis assez favorable à la maintenir dans mes formations parce que ça peut être vu comme positif dans la mesure où c'est bien compris, bien situé, bien éclairé par les réalités macroéconomiques. C'est très bien. Sortir de l'ébriété, ça peut être aussi en soi quelque chose de positif. Peser en faveur de ce que Yves Citon appelle une écologie de l'attention. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de notre attention? Comment est-ce que nos capacités attentionnelles, on fait attention à comment on les distribue? Ce sont des pistes. Et puis, avancer sur la question plus large des littératies numériques. Plus on se réapproprie les outils qui nous libèrent de la dépendance technologique à des grandes plateformes où on a tout clé en main, mais qui valorisent par ailleurs nos données dans des modèles très impactant pour l'environnement, ce n'est pas génial. Donc idéalement, le mieux, c'est d'intégrer la contrainte et jouer avec. C'est ma dernière slide. une petite citation de Gauthier-Roussil et Nicolas Nova. Je ne sais pas si comment dire, elle est adaptée à un environnement d'éditeur scientifique, mais peut-être il parle du design avec trois idées intéressantes, il me semble. Lui, il parle de numérique situé, donc il y a l'idée de reterritorialiser le numérique, le sortir du tout mondialisé et le ramener près de chez soi, tout simplement. Il parle également dans cette petite citation que je ne relis pas parce que je n'ai plus le temps, de formation, ce dont je viens de vous parler à l'instant même, donc réapprendre. Et enfin, en troisième lieu, il parle de jeu, donc de plaisir, qui s'oppose pour le coup à le sentiment d'addiction et d'ébriété dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Voilà, je vous remercie pour votre capacité attentionnelle. Merci.